Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre chaîne podcast, nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme. Ugolf Blue Green, Callaway et Garmin. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, au sommaire de ce 16e numéro de la saison, évidemment, le grand débrief de l'US Open, le 126e de l'histoire remporté par Wyndham Clark pour la deuxième fois de sa carrière, la Dream Team. Aujourd'hui, Fabien Denoyan, Ugolf Blue Green, Ramush Wartola, notre prof de golf, du golf Blue Green de Pessac, et notre éditorialiste Simon Dutin. Salut les amis.
Salut les gars.
Salut les gars. Salut JC.
On l'a vu du bon golf, hein.
C'était pas mal.
Je jouerais bien, moi, ce parcours.
Tu mettrais combien,
Shane Cock? Moi, ouais. Pas plus de 80.
Non?
Ouais.
À sur trois trous.
À l'aller. Bon, c'est pas si difficile que ça, je crois.
Non, pas compliqué ce golf.
Bon, en tout cas, on va se régaler et on va évidemment parler de la victoire de l'Américain. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Évidemment, on va revenir sur ce week-end tout de suite. Et c'est donc le deuxième succès dans un US Open de Wyndham Clark.
Ça vient bien, ça vient bien. Et il rentre! Incroyable! Oh, Wyndham Clark sur le green du 16 qui prend deux coups d'avance et ça simplifie grandement la tâche qu'il a à accomplir sur les deux prochains trous. C'est pas encore fait, mais ça sent très très bon maintenant.
Oh, il était à quelques centimètres de la catastrophe, hein, au trou numéro 16 avec pression drive et là un birdie qui vient de nulle part. Quel putt! Vous avez vu la rage qu'il a mis dans le point serré sur ce putt. Superbe putt au bon moment.
Un putt de champion tout simplement.
Yeah! And wild to wild for Wyndham.
Let's go, go!
And a second US Open Championship.
Le Practice RMC.
Et voilà, il a fini par être acclamé, même si ça n'a pas été le cas durant tout ce dimanche. On pourra y revenir dans cette émission. Déjà vainqueur de l'US Open en 2023, Wyndham Clark s'est donc offert un deuxième succès ce dimanche à Shinnecock Hills. L'Américain parti avec 6 coups d'avance, s'est fait très peur, mis sous pression jusqu'à l'avant-dernier putt. Il devance seulement d'un coup Sam Burns, deuxième à moins 3. Tom Kim, qui termine troisième à moins 1. Scotty Scheffler, lui, termine quatrième. Déjà, votre premier sentiment sur cet US Open, Simon Dutin.
Bah, en US Open, c'est se déguste, hein, toujours. On a eu ce qu'on voulait avec très peu de joueurs sous le par. Et encore une fois, on l'a souvent répété, Fabien en parlait dans les derniers épisodes. Désormais, la star, et a fortiori d'un US Open, c'est ce parcours. Voilà, c'est une hydre à 18 trous, tu vois, à 18 têtes, tu vois, qui becte tous les joueurs qui passent sur son passage. Et puis, tu en as toujours un ou deux qui arrivent à passer entre les griffes ou, tu vois, les dents, voilà, redoutables. Voilà, après, Wyndham Clark, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce type. Et voilà, on a assisté quand même à la victoire d'un revenant. On en parlera un
exactement
peu.
On va reparler de Wyndham Clark, mais déjà la première sensation, le premier feeling après ce beau dimanche. C'est vrai que parfois, on l'a dit dans cette émission, on s'est parfois ennuyé. Bah là, il y avait tout était quasiment réuni, quoi.
Bah, ça a été une vraie régalade, sincèrement. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas aussi excité devant une partie de golf. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du suspense, beaucoup. Parce qu'il y a un parcours brutal, et on va en parler, parce qu'il y avait une grosse adversité, mais on avait un mec devant, Camille Clark et tout le monde. Donc, quelque part,
c'est lent.
Je suis... Non, je vous en prie, cadeau. Non, c'était top, franchement, c'était top. Et il y a plein de belles histoires à raconter autour de lui, mais aussi autour de ce qu'on a pu voir, plus ou moins belle d'ailleurs, mais hyper intéressant. Donc, okay. Canon.
Ramush Wartola.
Écoutez, avant le troisième tour, tout le monde espérait qu'il y ait un scénario digne d'un US Open. Et effectivement, personnellement, je me disais, qu'est-ce que je ferais à la place de Clark sur cette dernière journée? Est-ce que je gère mon avance? Est-ce que je joue mon jeu? Est-ce que j'affronte le parcours? Ou est-ce que je regarde autour de moi? Il avait en même temps un matelas assez confortable d'avance, assez de points, mais justement ces 6 points, ben ça peut devenir un piège, et il s'en est rendu compte dès les premiers trous, et j'ai trouvé qu'il a admirablement réagi sur le retour. Mais c'est vrai que quand on se dit bah, il est à un 18 trous de la victoire avec 6 points d'avance, ça a valé pour lui, bien au contraire. Mais je pense qu'il aurait peut-être préféré avoir un peu moins d'avance et avoir un plan de match beaucoup plus précis.
Ok, toi, tu as senti que ce n'était pas assez précis ce qu'il voulait faire.
Non, parce que c'est inévitable, qui que ce soit. Non, mais qui
ah, mais c'est ça que je devrais faire. Alors, quand je joue au golf, il faudrait que j'essaye d'être plus précis.
Non, il a un plan de jeu, mais je suis certain
c'est stratégique,
j'ai jamais pensé.
Qu'avec son entourage, ben, il était ballotté dans le fait de rester en avance, de jouer son jeu, de respecter le parcours. Voilà. Alors que s'il a vu 2 ou 3 points d'avance, mais il aurait joué son jeu, il aurait été beaucoup plus incisif dès l'aller.
C'est toujours la gestion qui est difficile.
Je vous trouve un peu dur. Moi, je trouve qu'il a fait un dernier tour incroyable.
Il a fait une grande partie hier.
Il y a une donnée importante. Tu joues tes 3 premiers tours, et d'ailleurs, il était assez confiant. Je vais gagner en moins 10, moins 11. Ils ont été le mec en pleine maîtrise. Sauf que, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, il y a un mec qui arrive, qui a goinfré tout le monde depuis 5 ans. Et j'y viens nulle part, parce que... et il partage la dernière partie, le dernier tour, et c'est Scottie Scheffler. Et je pense que quand tu sais, la veille, que tu vas jouer une partie avec Scottie,
t'es pas très
que le mec, c'est le jour de son anniversaire, qui peut gagner l'US Open et faire le grand chelem.
Qui ne l'a jamais fait.
Je pense, si tu veux, tu peux arriver sur le départ avec les genoux qui se touchent et un peu réfléchir à ta série. Et en fait, l'autre facteur, mais je te laisse certainement faire la transition, c'est le comportement du public new-yorkais.
Ah oui, non.
Voilà. Mais le mec a été incroyable. Incroyable.
Ouais, c'est,
c'est un nouveau leader. Hein, et on cherchait un leader en Ryder Cup. Enfin, on cherchait. Les Américains cherchaient un leader en Ryder Cup. Là, on tombe sur un mec, mais qui a un mental, mais incroyable.
Alors, je précise, vu que vous voulez y aller tout de suite, je précise pourquoi un petit peu les Américains n'apprécient plus trop ce joueur. Il faut se souvenir que c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était l'an dernier à Oakmont. Il était très en colère et il avait fracassé quelques casiers dans le vestiaire, ce qui ne se fait absolument pas au golf. Il n'avait pas passé le cut pour...
Ça ne
se
fait pas nulle part, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais des accès de colère, on va dire, dans des sports collectifs, on en a déjà vu au golf, t'es vite réprimandé, on va dire, t'es vite blacklisté.
Pointé du doigt.
Exactement, d'ailleurs, il ne peut plus aller jouer à Oakmont, hein, je crois. Et donc, il avait raté le cut pour un coup, il était très frustré, donc voilà, quelques casiers s'en souviennent, et il est devenu persona non grata là-bas depuis cet épisode, et donc il avait une sale image, plutôt mal aimée. Et il a répondu hier en conférence de presse en disant « J'ai très vite vu que personne n'était derrière moi, c'est très difficile de voir à quel point on peut vous applaudir dès que vous ratez un coup, et on peut vous huer dès que vous en réussissez un. Logique, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire, et je me suis excusé pour cela. Je sors d'une année terrible et cette victoire a donc une valeur particulière. » Simon.
Il y a le casier à Oakmont, évidemment. Il y avait eu déjà des précédents, en fait, hein, parce que depuis, je crois que sa première victoire à l'US Open, il y a quelques tweets qui avaient un petit peu agacé, parce qu'on sait qu'il est talentueux, mais capricieux, un petit peu orgueilleux également. Il y avait eu donc un épisode au PGA Championship en 2025 où pareil, il avait fracassé un panneau, je crois, sur le parcours. Et on rappelle qu'il a quand même fait un gros travail psychologique. Sa psy était d'ailleurs présente hier pour le quatrième tour au moins. C'est un type qui, pour en revenir à son jeu, je pense, a toutes les armes pour en effet s'inviter à la table des patrons. Parce que c'est un mec qui il fait partie de ceux qui se simplifient quand même la tâche grâce au drive et qui, à l'occasion, peuvent mettre le couvercle grâce à leur petit jeu. Et ils sont pas si nombreux, finalement, en tout cas, à pouvoir le faire sur la distance.
Non, puis il a prouvé... pardon de te couper, je voudrais juste appuyer sur le fait que il regagne. Il regagne sur 2 parcours, d'ailleurs, assez similaires, on peut le noter. Mais le niveau de jeu du mec est quand même incroyable. Oui. Il a gagné il n'y a pas longtemps. Pour une fois qu'on a... Alors évidemment, il ne faut rien casser. Enfin, on ne va pas pousser ce genre de choses. Maintenant, c'est bien aussi que le mec ne soit pas tout à fait lisse. Et moi, je trouve ça bien que le mec, il arrive en conf en disant je suis sûr de mon jeu. Moi, je pense que je ne suis pas encore au top. Mmh. Je peux aller planter moins 10, moins 11. Mmh. Ça change des trucs qu'on nous sert... parce que c'est une conf de presse, parce qu'on veut faire plaisir aux journalistes, parce que je trouve que quelque part,
et là,
c'est bien.
Et là, en effet, loin de nous, l'envie d'inciter les gens à tout ça. Mais encore une fois, on regrette suffisamment souvent ici que ça manque d'aspérité, qu'on s'emmerde, que les mecs n'ont pas de caractère. Donc, en effet, OK, il a fracassé des casiers, il met les couilles, mais il montre de il y a des sautes d'humeur qui se traduisent par des mauvais comportements, mais ça dit quelque chose à la fois de la confiance qu'il a dans son potentiel, de ses aspirations. Et moi, un mec qui n'est pas content parce qu'il n'a pas réussi à rivaliser avec les Rory, les Scotty, ça me plaît encore une fois. Vous connaissez ma grande marotte des mecs qui s'assoient au fond du bus. Et ben lui, il y a une place qui est en train de se libérer.
J'aurais juste savoir si t'as une prime à chaque fois, à chaque émission.
Non, mais écoute, c'est mon concept.
Oui, merci, la question.
C'est mon concept et je le défends. Parce qu'on a rappelé donc ces faits d'armes. C'est quand même, on l'a vu, tu t'en as parlé. Bon, une nouvelle fois, la preuve que le public new-yorkais, c'est quand même une sacrée bande de crétins. Et que, en effet, hier, il y avait un truc un peu dérangeant quand même dans le fait de voir un Américain à la fois. Alors, même si Fabien l'a rappelé, c'est Scotty, qu'il y a ce tropisme, on aime les grands champions et tout, et ça roulait pour Scotty parce qu'on voulait aussi du spectacle. Mais.
Qui est absent total quand même. Hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste. Enfin, il était devenu depuis. Alors, Oakmont, c'est une certitude, mais même avant, c'était quand même le mec le plus détesté. Du circuit pro. C'était devenu le mec du PGA, je te le signe, le mec le plus détesté, le moins aimé du circuit pro. Et ce qui s'est passé hier va peut-être être un tournant, parce que tu sais, l'Amérique, elle aime ses champions, généralement. C'est pour ça que j'ai été très surpris. Elle aime ses enfants, quoi, tu vois. Et lui, pour l'instant, depuis Oakmont, il était en foyer pour, tu vois, pour gamins turbulents. Et hier, il a peut-être enfin signé son acte d'adoption, tu vois, auprès du grand public.
J'ai envie de dire, et je te passe la main à Moucho, j'ai envie de dire, est-ce que ça fait pas partie du jeu ? C'est-à-dire que tu t'es mal comporté, même si évidemment on va pas non plus en faire des caisses, c'est bon, on a compris, c'est excusé. Est-ce que ça fait pas partie du jeu qu'à un moment donné, quand t'as Scotty Scheffler en face, c'est le jour de son anniversaire, il a jamais gagné US Open, un peu comme Rory avec Augusta, qui n'avait jamais gagné jusque-là, est-ce que ça fait pas partie du jeu d'être plus pour Scotty que Wyndham Clark, en fait ?
Oui, évidemment, c'est vrai que la date, elle correspondait à ce que tout le monde soit derrière Scotty, mais de là à encourager des balles qui vont dans le bunker, de là le sifflet alors qu'il est américain, tout ça, c'est un comportement absolument lamentable, et c'est vraiment un public de crétins, c'est un public new-yorkais, et qui voulait juste du show. Il voulait juste du show.
Les donk-chok, la goinfre pas.
Non, mais je trouve que c'est... malgré tout, on tolère pas, mais on sait que pendant la Ryder Cup, c'est fréquent.
Justement, en pro, c'est plus rare, je trouve.
Ouais, mais on va pas, à un moment donné,
c'est
se
pas
plaindre,
grave. Ça fait partie
se
du truc,
plaindre ouais. Qu'on rentre dans un sport où voilà, il y a du caractère, il y a de l'envie, il y a de la passion, un magnifique maillot des Girondins, donc tu supportes Bordeaux, non, ils jouent plus au foot, hein, et tant mieux, quelque part. Maintenant, hier, en Ryder Cup, parfois, c'est un petit... Enfin, où c'est très limite. Là, c'est du chambrage pur et dur. Mais surtout, ça montre quoi ? Ben, un mec, il ne s'est pas laissé démonter, quoi. Et c'est ça, moi, qui me plaît. C'est que le mec... OK, les gars. Et on connaît quand même tous un peu le foot ici. Il y a des... Alors, je ne parle même pas du racisme, homophobie, hein, bien sûr, à bannir à vie. Mais les mecs se chambrent aussi. Et le public chambre.
Et c'est là où on voit, tu l'as rappelé, un champion. Est-ce qu'il est capable de résister sous la pression ?
Il a endossé, juste pour finir, le rôle du vilain, tu vois, genre à la manière d'un Patrick Reed. Et tu sens que hier, peut-être qu'il a été un peu déstabilisé parce que son avance se réduit assez vite et parce que Burns joue le feu derrière lui, sans jeu de mots. Mais peut-être que il a trouvé la clé pour se nourrir de ce rôle du vilain.
C'est toujours aseptisé, on va pas se plaindre que ça le soit moins.
Encore une fois.
Un moment où il vous a impressionné hier, Wyndham Clark. Un moment où vous êtes dit...
Le birdie au 10, il est sale, hein, quand même. Il tape un sacré shot. Et puis le putt du 16, voilà, il met le couvercle.
Avant.
Le putt du 16 ou plutôt le deuxième coup sur le 16 sur le par 5,
tout, mais même avant ça, il sauve un par au 4 alors qu'il se fout dans le bunker, il est à droite de la route, et il scramble, il sauve un énorme par au 4, il sauve un gros par au 6, il fait birdie au 10. Tu t'es dit quand même à intervalles réguliers, même s'il a perdu un shot de temps en temps, il a montré des signes de solidité. Et après, en effet, au 16, le putt, il est exceptionnel.
C'est le putt, bien sûr, mais c'est surtout la façon dont il a construit le trou.
Ah bah c'est
parce que au second coup, ils hésitent beaucoup quand même à passer les bunkers, ce qui est quand même très mal laillé.
Il est quasiment pendu.
Il
hein,
a quand 16, même ouais. une portée de balle à produire.
Le deuxième coup, il est exceptionnel.
Finalement, voilà, c'est peut-être ce coup-là parce qu'après ça engendre le troisième coup, etc. C'est peut-être ce coup-là qui est le coup de la victoire, je pense.
Ouais, alors moi, j'ai pas envie de sortir un coup plus qu'un autre. Je pense que on se rend pas compte, quand je dis vous rendez pas compte, parce que moi j'ai eu la chance de voir des US Open et la, donc la préparation USPGA, et de la difficulté. Enfin, j'ai même pas de mots.
Je pense qu'on s'en rend pas compte.
J'ai pas de mots plus forts. Enfin, c'est, enfin, ça peut devenir injouable. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on a vu un paquet de mecs frustrés. Taper dans leur club, taper dans leur sac, gueuler, serrer le poing parce qu'ils sauvent un bogey. Mmh. Alors que les mecs... Donc la difficulté du parcours. Moi, je l'ai trouvé très bon de bout en bout. Et il y a un truc, c'est qu'il n'a jamais abandonné la tête.
Il a surtout...
C'est-à-dire que Burns, il est venu. Et il a pas... Parce qu'il aurait pu craquer à un moment donné. Les leaderboards,
il a toujours été devant. Ouais.
Il a toujours été devant. Il est resté. Et moi, j'ai adoré, et je pense que vous l'avez noté, du premier coup tapé au dernier, son caddie, il discutait et il lui disait process.
À chaque fois. Oui.
Chaque coup qu'il a tapé sur le parcours. Donc, ils étaient vraiment. Ils avaient un plan de jeu. Ils l'ont gardé dans les bons moments et dans les moins bons. Et voilà. Mais c'est. Moi, je n'ai pas un coup particulier. Le mec a joué un golf de Marseille.
Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit qu'il allait craquer ?
Après son chip à l'aller sur le par 5, c'était risqué, là, oui. Non. Mais il a vite réagi, en fait. Mais ce que je veux vraiment... ce qu'il a donné comme impression, en fait, c'est qu'il ne s'est pas inquiété de derrière, indirectement. Il s'est dit, voilà, j'ai un parcours, j'ai un défi par rapport à ce parcours, ben j'ai un jeu qui doit s'adapter. Voilà. Et c'est pour une fois une marque de respect et une forme d'intelligence tactique, ce qui l'a amené à soulever
le trophée. Il a été exceptionnel. Bon, ça va sans dire, parce que de toute façon, sur ces parcours-là, on sait que le putting est primordial. Dans ces tournois-là, tu ne gagnes pas sans un bon putting. Je crois qu'il est 4. Il est 4e au putting sur le week-end, enfin sur les 4 jours. Et non, il a montré souvent quand même des signes. Oui, de résilience, de mental, quoi, de gros mental, parce que je ne sais plus si c'est au 14 ou au 15, le samedi, il sauve un énorme par en rentrant un putt fantastique, alors que s'il rate le putt, s'il prend bogey, il repasse à moins 5 et tous les autres sont à moins 1, tu te dis, ah, il y aura peut-être... Il sauve le par et derrière, il t'envoie le shot au bois 3, il se met donné pour eagle au 16... Et tu te dis, bon, c'est les montagnes russes dans la tronche et c'est solide quand même. Parce que là, tu te dis que tous ceux qui regardent les dernières parties depuis le clubhouse, ils se disent, ah, il va être dur à aller chercher quand même.
Ouais, pour moi, c'est Burns qui rate le coche.
Au 18 ?
Non, il prend 3 putts au 15. Ouais. Donc, il desserre les taux. Il fait un coup fantastique, fantastique au 17. Un truc de malade.
Surtout celui-là, le petit putt.
Il a pas un putt compliqué.
Le drapeau n'était pas bien placé.
Il le joue pas. Donc tu sens qu'il serre un peu. Et bon, au 18, là, le destin choisit, en fait. Le destin le choisit, la balle rentre. Le destin ne l'a pas choisi, elle passe.
Il fait un putt fantastique.
Mais moi, je pense que c'est plutôt... Et puis, il a muselé. Pendant 18 trous, le numéro 1 mondial. C'est-à-dire que, et je pense que ça a été excellent pour lui de se dire, si je garde Scotty à distance,
je gagnerai.
Je ne serai pas rattrapé.
Ouais.
C'est sûr et
c'était
certain.
Son principal adversaire.
En tout cas, je pense qu'il a calqué sa son partie. Jeu et sa partie là-dessus. Et force est de constater qu'il a plutôt raison.
Scotty l'a bien aidé quand même avec son niveau de putting parce que son grand jeu était quand même présent, sa mise en jeu, ses seconds coups, mais c'est vrai qu'au putting, il était défaillant quand même, que ce soit pour sauver des...
Moi, je ne l'ai pas trouvé impérial. Non, je ne l'ai pas... Au putting,
il était là, largement. Écoute, regarde encore son chip, là, derrière le green.
Mais le grand jeu, ou c'est le petit jeu
Tous en jeu. Soit le petit jeu ou le grand jeu.
Non, moi, je ne l'ai pas
mais
trouvé.
Mais sur les greens...
Je
ne
l'ai pas du tout trouvé chirurgical comme il peut l'être.
Et il joue plus un hier.
Mais tu ne peux pas être chirurgical à Shinnecock. C'est compliqué, même hier.
Pourquoi ? Comment Burns... Alors, comment t'as... Je ne voudrais pas dire de conneries. 11, 17, 20...
Non, mais tu dis chirurgical comme d'autres années où il plantait à moins d'un mètre.
J'aurais juste terminé. Tu me poses une question. Comment 11 mecs, je crois de mémoire, ont joué sous le par ?
Parce que...
Et s'il y en a bien un numéro un mondial, si tu vas aller chercher la gagne, tu joues sous le par.
Oui, mais avec un putting.
Attends, tu parles
avec
du dimanche ou tu parles du total?
Dimanche.
Avec un putting qui tient la route.
Parce que sur le week-end, t'as trois mecs hein, qui finissent. Enfin, sur quatre jours, il y a trois mecs qui finissent sous le par. C'est quand même. Donc, ça dit aussi quand même quelque chose de la performance.
Non, mais dimanche, il y en a eu. Ils ont laissé un parcours. Oui. Et Burst, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une super analyse. Il y a eu une super analyse de Joël Salter, qui était un excellent joueur français, qui a gagné d'ailleurs sur le DP, et qui est aujourd'hui l'agent de Hidalgo, le joueur espagnol. Et avant que les 5-6 dernières parties prennent le départ, il a dit « ça peut être un dimanche assez excitant, parce que le parcours a été... le setup du parcours a été fait... Pour durcir le truc.
Pour du show.
Et force est de constater, 11 scores sous le par, il y avait de la place pour Scotty. Et ça n'aurait pas été la même partie, parce que les 9 premiers trous que fait Burns, si c'est Scotty qui fait les mêmes, je peux vous dire que notre ami Clark,
il n'aurait pas été dans les mêmes dispositions. Je suis persuadé que s'il n'y a pas 6 points d'avance, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de spectacle, s'il n'y a pas 6 points d'avance... Ils ont un quatrième tour avec des drapeaux beaucoup plus compliqués.
Oui, mais il y avait 6 points d'avance. Et,
mais non,
tu refais pas l'histoire.
Non, parce hier, il était quand même beaucoup plus... Il faisait beau, il y avait moins de vent, mais il était quand même beaucoup moins compliqué que les 3 premiers tours.
Positions de drapeau étaient moins compliquées.
Les départs...
Mais les greens étaient encore plus durs. Le vent, il était encore
aussi
présent. Les fairways étaient béton armé.
Mais ils avaient aussi des clubs beaucoup plus courts à jouer.
Toi aussi, tu trouves que c'est un parcours qui n'est pas difficile?
J'ai pas dit ça. J'ai dit que si, écoute-moi bien, s'il n'y a pas eu ces 6 points d'avance et un show qui serait tombé à la renverse sans aucun intérêt, ils ont préféré, pourquoi pas, c'est une posture, donner la chance à tout le monde pour qu'il y ait un minimum de suspense.
Pour que ça revienne
et
de
l'arrière. Et c'est vrai que ça a eu lieu. Voilà.
Ils le font exprès.
Ils font un setup. Je ne reconnais pas. Ou alors, l'UFGA a changé. Je pensais que l'UFGA était bloqué sur ses positions parce qu'on voulait mettre les pros en difficulté. Là, effectivement, je ne sais pas quoi. Est-ce que les joueurs ont commencé à la ramener comme d'habitude, ou est-ce que UGA a voulu mettre le choix en avant?
Voilà, c'est plutôt intelligent de leur part, moi, je trouve.
Je sais pas.
Oui, et puis vois les résultats que ça donne, Fab a rappelé qu'ils sont moins de 20 à avoir joué sous le par dimanche, ça n'a pas non plus été quand même...
Parce que c'était dantesque le jeudi, vendredi, c'est
avec
dantesque.
Un moins 4 comme meilleur score. Hein.
C'est
oui,
dantesque.
Non, mais c'est ça, le meilleur score hier, c'est moins 4. Bon, ça n'a pas été l'ouverture des vannes, ça n'a pas été la foire au birdie, et... Ouais, je trouve que ça montre à quel point il a été solide. Wire to wire, tu sais, leader du premier au dernier jour, c'est arrivé...
Moins 6, hein, 5 quarts jeudi.
C'est arrivé 9 fois seulement hein, dans l'histoire des majeurs. Keimer l'avait fait en 2014, Koepka l'a fait dans un autre majeur, je ne sais plus,
entre-temps. Il a été impérial.
C'est quand même absolument monstrueux. Wyndham Clark, il s'invite à une table quand même, et il a 2 majeurs sur la cheminée.
Non, mais il strike la balle, c'est...
Et il a, exactement, c'est un bombardier qui sait quand même avoir... qui a des mains et qui est une sorte de magicien quand même quand il veut bien. Il est quand même dans une période où il joue le feu. C'est prometteur pour l'avenir, pour le suspense que ça peut nous réserver, parce que voilà, des mecs qui ont 2 majeurs et qui sont, enfin, je veux dire, est-ce que ça va devenir un Zach Johnson, un Marco Mehara, ou est-ce que ça peut atteindre, tu vois, un Couples par exemple? Il a qu'un seul majeur, c'est une légende. Wyndham Clark, les prochaines semaines, les prochains mois vont nous dire où est-ce que il s'assoit. Je vous épargne le bus, mais à quelle table il s'assoit?
Ouais, et puis on va en parler aussi. Je trouve que à part Scotty, McIlroy, Fitzpatrick, le parcours c'est le même pour tout le monde. Et, alors, je parlerai pas que de Rahm, mais tu mets Rahm, Deschambault, Koepka, Xander,
Xander Schauffele, il paraît toujours quasiment inaperçu dans les tournois,
ouais,
et il fait encore placer parce qu'il est 11e. On le voit très peu.
Le cas le plus incroyable quand même. Je ne vais pas spoiler, donc j'en dis juste un mot, parce que Ramoud, je vais en parler tout à l'heure. Moi, le mec qui m'a le plus impressionné après Clark, c'est Niemann.
Ah bah, tu sais quoi, on va en parler tout de suite. Tu veux qu'on
mais
balance
non, mais
tout de suite
que c'est
bien sûr, on balance ton golfeur tout de suite, génial.
Le practice RMC.
Courbette, balance, balance. chance.
Mais tu l'emporteras pas dans le trou.
Ça y est, il l'a acheté.
Allez.
Tu l'as acheté.
Balance ton golfeur.
On balance les bons, les mauvais points aux golfeurs durant cette US Open, le 126e de l'histoire. Donc Joachim Niemann, la mèche est vendue. tu voulais le citer, pourquoi ? Joachim Niemann, je rappelle quand même son classement, il fait un très beau tournoi, il est 7e. Mais c'est vrai que son parcours est totalement en dents de scie. En tout cas, son week-end est totalement en dents de scie.
Absolument. Il a subi les foudres des arbitres, puisqu'il a eu un comportement soi-disant répréhensible à la suite de deux balles hors limite, d'un drop qu'il estimait free, alors qu'on ne lui a pas accepté. Donc tout ça, mis bout à bout, il s'est un peu énervé. Et à l'arrivée, il fait 11 sur le 6e trou de son parcours. 11.
Il en met 2 à out avant. Hein.
Oui, il en met 2 à out, etc. Donc il fait 11 plus 7, plus 7. Il n'est qu'au 6e trou. Donc, bon an, mal an, il continue le parcours, il ramène un plus 6. Et à la fin du parcours, le lendemain, on lui signifie qu'il a eu 2 points de pénalité pour comportement. Et là, derrière, il va enchaîner sur son second tour.
Oui, il fait donc 8 la première journée.
Il fait 9 plus 2. Oui, 8, oui, mais il fait 11 sur un par 4.
Oui, bien sûr. Non, mais il termine son jeudi avec plus 8.
Derrière, il a une énergie, je ne sais pas d'où il a. D'où il recherche, il arrive à sortir un 65.
Ouais, il fait moins 5.
Pour franchir le cut. D'accord. Il fait le par sur le troisième jour, alors que c'était la journée la plus épouvantable. Et hier, au quatrième tour, il fait moins 4, un des meilleurs scores. Donc, en dents de scie, tout ce que vous voulez. Mais surtout, ce qui est admirable, et je ne suis pas du tout certain que dans le champ, il y en ait beaucoup qui aient cette réaction. Ce qui est admirable, évidemment, son jeu, on n'en parle pas. Il a 8 victoires sur le livre. Il a 2 victoires sur le PGA Tour. Mais cette victoire-là, même s'il finit 7e, c'est une forme de victoire parce que ça le propulse dans une dimension où là, effectivement, il peut prétendre à gagner un majeur. Parce que c'est un joueur qui a... Ben, il a eu faire aux arbitres. Il a fait n'importe quoi pendant un quart d'heure. Mais il a eu suffisamment d'intelligence, de ressources, de golf pour finir en top 10. Et je trouve ça absolument admirable. Et ça n'est pas Deschambault, Rahm, à différents, Rory également, avec leur comportement lamentable, surtout Rahm, qui vont me faire dire le contraire. Donc vraiment, ce joueur Niemann que j'aimais déjà beaucoup, au niveau de la technique, au niveau de son swing qui est assez particulier, mais là, il a un comportement absolument incroyable.
Et qui avait un peu disparu de la circulation ces derniers majeurs.
Majeurs,
absolument, ouais.
Alors que c'est un joueur fantastique et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Fabien, tu voulais rebondir sur Joachim Niemann ?
Non, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un comeback incroyable. Et non, Ramucho a tout dit. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il est frais, qu'il a une frappe de balle incroyable, qu'il a tous les coups dans son sac. C'est chouette pour le golf aussi. Et j'espère que ces joueurs-là vont revenir,
clairement,
et pas uniquement majeurs. Parce qu'ils font du bien, sincèrement,
ils font du
bien au golf.
Simon ?
Non, moi, je pense pas que ce soit sa réaction, sa performance ce week-end qui nous fasse dire que désormais, il est prêt à gagner un majeur, parce que ça fait 2 ans qu'on nous le vend parmi les favoris, parmi les mecs du livre, au départ d'un majeur. Donc, à ce titre-là, moi, je suis un peu déçu, parce que j'étais dans le train Niemann aussi, et je disais, oui, c'est vrai, vu la domination sur le livre, parce que lui, il joue sérieusement, lui, il y est pour rincer tout le monde. Bon, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Alors là, je vais évidemment passer pour un pimpin, mais je trouve que ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui considèrent, et dont je fais partie, que justement quand tu t'envoies 11 et je sais pas combien, tu vois, tu finis ton aller à plus 8, je pense que ça te libère d'une forme de pression et qu'à ce jeu, lorsque tu es détaché de l'obligation du résultat, dans certains contextes, dans certaines situations, il n'est pas interdit de penser que tu joues mieux que lorsque tu te mets la pression du résultat et que tu es en contention ou qu'en tout cas, tu te fais encore croire que tu as des chances
non,
de
mais
de
on peut gagner. Pas on peut pas valider ça.
Ce que je veux dire, c'est que de la part d'un joueur de ce niveau-là, je suis pas surpris qu'il ait réussi à réagir.
Mais il le fait sur Ramouche l'a dit.
Sixième
trou. Derrière, Ça l'a même pas libéré, alors. Enfin, il était en roue libre, quoi. Non, il a du talent, il s'est goinfré. Non, mais il s'est goinfré. Tu dis, ouais, mais on l'attend. Sauf qu'on l'attendait et qu'on ne l'avait pas vu venir. Hein. Ouais. Donc, rien, c'est que le mec, il était dans une bonne semaine, qui s'est perdu sur plusieurs coups, quand même. Hein.
Ouais.
Sur un trou. Non, ça ne libère de rien du tout. Je peux dire qu'à la sortie du green du 6, je pense qu'il n'était pas libéré. Hein.
Non,
mais en revanche, lui, s'est bien comporté.
Voilà, parce que c'est tellement facile, Simon, c'est tellement facile pour des joueurs aussi calibrés que ce que je viens de citer. C'est une semaine à part, bon ok, c'était pas ma semaine. D'ailleurs, ça se voit, mais ça, c'est vraiment pas professionnel, c'est vraiment
mais
pas
on va parler le dernier tour de Rory hier. Mais il y a un moment donné, tous les auditeurs, je fais juste un petit truc. Quand je prends l'avis sur Rory, qui est évidemment un avis personnel, et je répète, je ne juge pas son niveau de jeu.
Mais non.
Bien évidemment, puisque j'ai toujours dit par ailleurs, quand je pouvais critiquer son attitude, que c'était un talent hors norme, certainement le plus grand talent. Mais pardon, l'attitude qu'il a hier, parce que monsieur met un drive de 340 mètres ou 350 mètres au moins, et qu'il fait un chip de merde, parce qu'en fait, il ne réfléchit pas. Mais en même temps, on ne va pas lui en vouloir. Il avait fait 54 trous, 3 quarts avant. Donc je comprends qu'il n'ait pas vu que les greens étaient béton, que derrière le green, ça descendait. Non mais... franchement, ouais, pardon Rory, c'est vrai que t'as pas d'expérience. Donc il rate le truc, machin, et faire un 18 trous comme ça, mais pour les fans, pour le golf, pardon, c'est inadmissible.
Alors, allez-y, que c'est une question d'attitude ou c'était une question de niveau de jeu?
Non, niveau de jeu, il n'y a même pas de débat. Donc allez-y sur les réseaux, critiquez les amis, j'adore ça, vous pouvez y aller, parce que ça me fait doucement rire, parce que c'est tellement, je trouve, dommage qu'en ayant autant de talent, en étant aussi champion qu'il est dans l'âme, par rapport à ses fans, par rapport au golf et tout ça, putain, fais un tour où tu donnes l'impression que t'es dedans, quoi. Y a une image, à un moment donné, il est en train de regarder... J'ai perdu avec qui jouait... Merde. Bon, bref.
C'est vrai.
Et il le regardait comme si on jouait tous les quatre ensemble... Un peu en souriant, mais bon, vas-y, tu termines, quoi. Je trouve ça dommage.
Ok. Simon, tu voulais rajouter quelque chose sur Rory?
Je ne vais pas enfoncer ce bon Rory.
Juste une dernière chose. C'est tellement facile d'avoir le sourire, d'avoir la banane quand tout se passe bien, quand on enchaîne les birdies. Et je parle surtout quand je vois Jon Rahm shooter dans son driver sur un départ à plusieurs reprises comme ça, dédaigneux du matériel, dédaigneux du public, dédaigneux de ce tournoi, dédaigneux d'un grand chelem. Voilà, il est plein de talent, il a la grinta, tout ce que vous voulez, mais il doit l'avoir aussi. Il doit l'avoir aussi quand ça se passe moins bien. Et pas jouer à l'enfant gâté du tour, qui choisit ses tournois, qui choisit ses tours, etc. Voilà, ça je ne supporte plus. Et Dieu sait si Rahm, évidemment, est un joueur extraordinaire. Mais au niveau comportement, c'est encore à revoir.
Je vois pas bien le niveau.
Hein mais le balance ton golfeur de Simon, c'était sur Keith Mitchell.
Keith Mitchell.
Pas encore une histoire de bus. Hein.
Non, même si. On va peut-être lui faire une place, ce bon Keith Mitchell, avec son style aussi agaçant que fascinant. Des rares qui portent la visière.
Quatrième
américain. Il a toujours l'air de tirer la gueule. Voilà, un personnage qui a des aspérités. Premier au putting sur les 4 jours, il fait T4, enfin, quatrième ex aequo, c'est son meilleur résultat en majeur. Et je sais pas, tu sens qu'il y a quelque chose à gratter derrière ce joueur. Encore une fois, moi, je suis pas dans la team Mitchell, mais premier joueur de l'histoire, et c'est pour ça que je voulais le mettre en valeur, de l'US Open a joué dans le par les 4 jours. Voilà, ça, c'était encore...
C'est énorme, ça. Hein
4 fois 70.
C'est quand même monstrueux, quand même, sur un US Open. Avec, et c'est là que c'est beau, et ça va peut-être rejoindre un petit peu ce que je disais et qui vous a pas plu sur Niemann. Jeudi, il envoie 41 à l'aller et 29 au retour. Et c'est ça qui illustre le fait que ce jeu est absolument fascinant et a fortiori à ses altitudes. Parce que ce que je voulais dire sur Niemann, c'est que parfois, tu mets ton drive sur le fairway d'à côté, tu lâches le faisan à 50 mètres, souvent ton recovery shot, même si tu as un fer 5 à la main, 9 fois sur 10, ton recovery shot, il est bon. Parce que t'es à l'adresse, t'as perdu tout espoir de scorer sur le trou, t'en as plus rien à foutre, et souvent t'envoies un bon shot. Et toute proportion gardée, je pense que ces mecs-là, à un moment donné, quand ils arrivent à débrancher, un peu comme le joueur du dimanche, mais sur des échelles et sur voilà, des laps de temps
bien sûr,
moins
un niveau
grand,
totalement différent. Ouais.
Et ben, il envoie 41, il se dit bon, bah, voilà, ce ne sera pas pour cette année. Et derrière, 29, voilà, 70, il arrive au clubhouse. Et je me demande dans quel état d'esprit sont ces mecs-là après des montagnes russes comme ça. Donc, je ne te cache pas que avant le tournoi, Keith Mitchell, c'était pas ma tasse de thé. Ça me le rendrait presque sympathique, ce bon Keith Mitchell.
Même avec une visière?
Ah mais j'adore.
Je te rappelle que moi, je déteste la visière. Le mec
a un flow de malade.
Oui, mais voilà,
un look horrible.
Le mec, il a non seulement la visière, il a le polo. Ouais, ouais. Et je rêve de trouver ça dans un pro shop. Je pense difficilement en France, mais il a un polo 4 boots. Enfin, il a un flow de malade. Et un talent.
Je voudrais qu'on dise un mot tout de même. Pardon, Scotty Scheffler, pour ton balance ton golfeur, même si on en a déjà parlé, mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Fabien.
Non, moi j'aimerais, alors ça va être un peu paradoxal, mais j'aimerais remercier Scotty Scheffler. J'aimerais remercier Scotty Scheffler d'être toujours présent et contrairement à certains, de jouer son golf et de tenter de gagner jusqu'au dernier putt. Ouais. Du 72e trou. Et ça, je trouve qu'on ne le vende pas assez. Je pense qu'il était un peu à côté de ses pompes. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé avec son coach. Il y avait une histoire de grippe ou que sais-je. Il n'a pas rentré énormément de putts. En tout cas, c'est pas tombé. Donc, quand ça ne tombe pas, c'est frustrant. Quand ça ne tombe pas, ça ne te permet pas de revenir proche de la tête. Donc, ouais, heureusement qu'on a ce mec-là qui tient son rang, numéro 1. Un vrai numéro 1 et bon anniversaire parce que c'était hier et je le remercie.
30 ans.
Je le trouve moins clinique.
Oui.
Qu'il n'était. Je le trouve moins. Il démarre toujours difficilement ses tournois, que ce soit un majeur ou un tournoi régulier. Et on sent derrière qu'il faut qu'il court et qu'il aille puiser vraiment très très loin. Alors parfois ça fonctionne, hein, il a gagné, parfois c'est plus compliqué. Mais heureusement qu'on a ce type-là, qui a montré d'ailleurs un petit peu plus d'aspérité pendant ce tournoi, en se serrant le poing, bien il sûr. Rentre un chip samedi, tu as l'impression que c'est le Rory, c'est le Scotty. Qu'on peut voir en rider quand voilà. Donc quand je dis que c'est paradoxal, ben je trouve que son jeu est un peu moins bon, mais merci monsieur de ce que vous apportez au golf.
Un mot sur deux joueurs du Live qui n'ont pas passé le cut. Bryson DeChambeau, on en parlait dans un épisode il y a encore quelques semaines, on se demandait s'il allait réagir après deux cuts ratés lors des deux premiers majeurs. Ça fait trois majeurs et trois cuts ratés.
Peut-être le grand slam cette saison.
Exactement.
Le bon sens.
Un mot, comment vous l'avez trouvé
Il a démarré comme un... Il a démarré en trombe. Hein.
Voilà, ah ouais. Exactement.
Il joue pas mal jeudi. Et puis,
Il démarre moins 2, moins 3 sur les 7 premiers.
Voilà. Il termine, il fait un 70 le jeudi soir.
Mais je pense que
et il fait 75.
C'est le genre de parcours, comme Ram d'ailleurs, qui ne leur convient pas du tout.
Surtout, ils ne vont pas se remettre en question.
Parce que j'allais être dur, mais parce qu'il faut réfléchir un peu à autre chose que taper fort. Donc là, c'est un peu dur parce que c'est quand même dimanche champion et j'arrive même pas en dessous de la malléole. Mais
Ram, c'est fou quand même. Il fait moins de jeudi. Hein.
Ouais. Ram, tu te dis, putain, ça y est, il est lancé. Il va faire un super tournoi. Et on l'a pas bien vu en fait parce qu'on a, c'était pas filmé. J'en ai parlé. La retransmission, on a l'impression, t'as trois joueurs là, t'as Norgaard. Tu demandais pourquoi il a pris plus. On a vu plus Norgaard que certains mecs qui étaient en tête du tournoi. On va pas refaire à chaque fois Ram, DeChambeau.
Mais bon là, par rapport à Scotty. Ce que dit Fabien, c'est que Scotty a un comportement autrement plus professionnel, même si l'environnement ne lui plaît pas, même si le parcours ne lui plaît pas, que des comportements comme Bryson et Ram.
Voilà. Parfait les amis, bah, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce 126e US Open de l'histoire et donc cette victoire de Wyndham Clark. Et forcément, on débriefera aussi le British qui va débuter, qui sera là dans un mois, en juillet. Exactement, on parlera de The Open également pour nous aussi débriefer tous les majors de la saison. Merci beaucoup les amis, on va se retrouver la semaine prochaine, lundi prochain, pour une spéciale auditeur. Voilà, si vous avez des questions, il y en a certains qui seront parmi nous, aussi des questions sur Instagram, on répondra à toutes les questions sur la technique, sur le jeu, sur le matériel. On sera là évidemment avec toute la Dream Team. On vous embrasse et d'ici là, bon golf à tous.
Salut.
Le practice RMC.